Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Fidèles auditeurs, soyez le bienvenu à ce nouveau numéro de YouJob. Ce soir, nous allons faire un mariage entre le business et la mode. Ce soir, je reçois une invitée qui, bien sûr, est entre la mode et les affaires. Elle est connue pour avoir habillé de plus grandes stars mondiales, des Rihanna, Beyoncé, en passant par Kanye West, à Fally Poupa ou encore Koffi Olomidé. Notre invitée de ce soir est une créatrice des modes et styliste très talentueuse qui s'est également retrouvée à la tête de plusieurs projets sérieux, entre autres en tant que directrice artistique chez Universal Music Africa en 2020. Et ce soir, c'est avec sa casquette des directrices, sa nouvelle casquette d'ailleurs, des directrices exécutives de l'Institut Régional de la Mode que nous allons la recevoir. Elle, c'est Laetitia Candolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Un plaisir de te recevoir. En tout cas, ta présence dans YouJob est un honneur. Est-ce que ça va?
Très bien. Et toi?
Ouais, ça va. On fait avec. Alors, c'est vraiment un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois où j'ai été reçu. Aujourd'hui, c'est que tu as accepté de t'engager dans une initiative passionnante. Ça, c'était un avis personnel. Kobo Fashion, c'est déjà les lancements cette semaine.
C'est déjà le lancement cette semaine. Moi, j'ai pris position il y a quelques semaines, donc le 1er septembre. Donc, comme tu dis, c'est clairement un nouveau rôle pour moi d'être aujourd'hui la directrice exécutive du Kobo Fashion et de l'Institut Régional de la Mode en Afrique, qui c'est un incubateur déjà autour de la mode et un type d'institut, en tout cas, qu'on n'a pas encore l'habitude de voir en Afrique, du moins sur la région d'Afrique centrale.
Ah, ça c'est vrai, hein. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'étais emporté. Alors, on a quand même l'habitude de voir aussi de projets bien annoncés à Kinshasa, mais qui malheureusement, après une année, deux ans, n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui garantit quand même une réussite ou, on va dire, une longue durée pour cette initiative?
C'est un peu le challenge qu'on me donne. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, tout d'abord, le projet, il a été lancé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est assuré sur plusieurs années. Donc, il n'a pas été lancé avec une optique de « on s'essaye une année et au bout d'un an, si on n'arrête pas, si on n'y arrive pas plutôt, on arrête ». C'est un projet dont les financements actuels nous permettent d'aller sur 1-2 ans minimum. Et l'objectif, maintenant, c'est justement de, sur ces 1-2 premières années, pérenniser l'institut. Et j'ai même envie de te dire, pourquoi pas l'agrandir également. C'est déjà un très grand espace, mais je pense qu'en termes de créativité, justement, en Afrique centrale, on en a à déborder et il nous faut bien évidemment beaucoup plus d'espace comme celui-ci.
Créatrice de mode et styliste Laetitia Candolo est notre invitée ce soir. Alors, on sent déjà un peu de minimalisme dans son habillement aujourd'hui. Et ça, on aime bien. Et puisqu'on va parler mode et affaires, on parle de l'Institut Régional de la Mode et Kobo Fashion, dont elle a la responsabilité de conduire. C'est déjà pour combien d'années
Là, on est parti pour minimum 2-3 ans, pour ne pas dire 5.
Ok. Alors, ça, c'est bien. Mais on parle de Kobo Fashion, qui n'est pas seulement un nouveau chapitre dans ta carrière, mais surtout dans l'histoire de la mode en République démocratique du Congo. On parle d'un peuple qui aime s'habiller, qui aime bien l'élégance, mais qui souvent manque de tous ces éléments importants qui permettraient aux créateurs de s'émanciper, de vendre, de faire parler de leur créativité. Avec Kobo Fashion, il y a quand même trois piliers. on parle d'un programme d'incubation, c'est-à-dire qu'il y aura de formation. Et comment ça va fonctionner?
Alors, tu as là, justement, actuellement, par exemple, une première cohorte, donc des premiers bénéficiaires qui sont là avec nous depuis 2 mois. Et eux, sur la formation qui suivent, qui s'appelle la mode à impact, ils ont reçu une bourse. Donc, ils sont nourris, ils sont logés et ils suivent une formation pendant 6 mois. Donc, ce programme-là, au sein de l'Institut, il a lieu tous les 6 mois avec une nouvelle promotion. Mais en parallèle de ça, dans cet espace, il va justement avoir d'autres types de formations, donc qui vont être plus ou moins longues. On va pouvoir proposer des formations peut-être de 1 mois, peut-être de 3-4 mois, qui vont aussi prendre en compte le niveau des personnes, parce que tout le monde n'a pas le même niveau ou les mêmes compétences au départ. Tu vas pouvoir avoir des formations, par exemple, que sur le patronage, des formations qui seront aussi liées, un peu comme tu disais tout à l'heure, sur l'aspect peut-être plus business de la mode, comprendre aussi comment est-ce qu'on peut vendre ses produits, comment fixer ses prix. Faut savoir que il y a vraiment une notion, enfin la notion de région, parce que il nous fallait un point physique. Et Kinshasa, c'est un peu le berceau de tout ça. Donc, ça a été Kinshasa. Mais à côté de tout ça, tu vois, il y a encore quelques jours, je donnais une conférence à Lubumbashi en visio. Et là, on était vraiment sur l'aspect business de la mode. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre, OK, je suis créative, j'aime ça. Mais comment est-ce que je peux être créative, vivre de ça? Comment est-ce que je peux être créative en Afrique centrale et faire parler de mon art à l'international? Voilà, il y a toute cette ambition aujourd'hui de faire découvrir les différents métiers qui viennent intervenir dans la chaîne d'un créateur.
Alors, comment ces participants à la première cohorte ont eu cette opportunité? Est-ce qu'ils passent par un concours? Il faut aussi juste s'enregistrer ou il faut être les enfants préférés ou les créateurs préférés?
Il faut être les enfants préférés de Letizia Candolo.
Okay.
Non, mais alors il y a eu un appel à candidature donc sur les différents pays de la région d'Afrique centrale et ils ont postulé. C'est pas moi qui ai fait ce recrutement, donc ce sont vraiment des profils que moi aussi j'ai découvert à mon arrivée. Mais voilà, ils ont passé plusieurs entretiens, envoyé des dossiers un peu créatifs avec des questions bien spécifiques. Et après, oui, tu as des entretiens, vu qu'ils n'étaient pas tous dans le même pays, il y a eu des entretiens en visio aussi pour le choix de ces candidats.
Alors, la grande question, c'est aussi au niveau du niveau des compétences. Comme tu le disais, parce qu'il y en a certains qui ont quand même un grand niveau, qui craignent déjà. Il y en a aussi qui rêvent, mais qui n'ont fait aucun pas dans la mode. Est-ce que tout le monde a la possibilité d'être incubé, de passer par Kobo Fashion?
Alors, lorsque tu rentres dans un incubateur, peu importe le secteur, c'est que quelque part, tu as déjà débuté une activité. Donc, la plupart des bénéficiaires qu'on a sont un peu, comme tu disais, des créateurs qui en tout cas, ont déjà touché plus ou moins à quelque chose dans la mode. Après, chacun a des compétences peut-être plus abouties. Tu vas avoir des profils qui sont plus techniques, des profils qui sont plus créatifs. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà certaines connaissances. La raison, elle est simple, c'est que, et c'est ce que je leur répète chaque jour, ils sont là pour 6 mois. Moi, j'ai plus de 10 ans de carrière derrière moi. Donc, c'est compliqué de donner en 6 mois ce que moi, j'ai pris plus d'une dizaine d'années à construire. Et c'est la raison pour laquelle les profils qu'on choisit ont déjà une certaine base dans la mode, en tout cas sur l'incubation. Maintenant, sur les formations qui seront ouvertes au public, c'est là où, comme je te disais tout à l'heure, tu vas avoir des niveaux selon les formations. Donc il y a des formations où tu verras qu'il y aura inscrit, par exemple, niveau débutant. Donc si tu es débutant, on te conseille de prendre cette formation. Si tu as un niveau intermédiaire, on ira peut-être sur un autre type de formation en abordant des spécificités peut-être un peu plus profondes.
Notre sujet d'ailleurs ce soir, c'est Kinshasa, prochaine capitale de la mode. C'est une question, c'était une phrase, une volonté manifestée par la fondatrice à l'ouverture il y a plusieurs mois, ou à l'annonce hein, de cet incubateur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une phrase quand même réaliste ? Parce qu'on peut dire des choses parfois, mais qui ne sont pas réalistes.
Bah moi, j'ai envie de te dire, tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a pas été réaliste. Et pourtant, je l'ai fait. Tu vois, à aucun moment, on t'aurait dit... et même, il y a des gens encore aujourd'hui qui ne croient pas, mais quand on te dit, tu as une styliste congolaise qui a travaillé pour Kanye West, pour les gens, ça a l'air complètement irréaliste. Et on l'a fait. Aujourd'hui, la fondatrice, qui est Sidonie Latéré, elle appelle ce projet le projet de 100 ans.
Projet de 100 ans.
Parce que pour elle, c'est vraiment l'importance, en tout cas, c'est d'aujourd'hui de poser une première pierre, mais que ce projet puisse aller au-delà de nous. Donc, ça a l'air impossible, mais j'ai envie de te dire, même la faisabilité de cet institut, il y a quelques années, on t'aurait également dit que c'était impossible. Tu vois, et pourtant, bah, l'Institut aujourd'hui, il tient debout et il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Donc, c'est, je pense, beaucoup de volonté de chacun, de toutes les personnes en tout cas qui souhaitent le voir évoluer. Et que je suis sûre que je te l'ai déjà dit sur nos dernières rencontres, mais pour ma part, rien n'est impossible. Et maintenant, Kinshasa, d'un point de vue culturel, on s'en rend pas forcément compte quand on est congolais ou quand on est beaucoup au Congo, mais lorsque tu sors, tu te rends compte quand même de l'impact qu'a eu le Congo sur la culture afro à l'international. Tu vois, il n'y a pas un pays qui te parlera de mode ou mode africaine sans parler de sa peur. Aujourd'hui, les meilleurs rappeurs, ou en tout cas ceux qui vendent le plus en Europe ou en France, ce sont des Congolais d'origine. Et je pense qu'à un moment, il faut prendre conscience de ça. Il faut aussi prendre la responsabilité, et j'insiste sur ce mot, de comprendre que notre culture, elle peut atteindre le niveau qu'on souhaite que si nous-mêmes, on l'apporte. Personne ne le fera à notre place. C'est à nous de porter cette culture, c'est à nous de maintenir cet héritage et de faire en sorte que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, ça se perd.
Parlons d'ailleurs de sa peur, c'est un autre pilier de Kobo Fashion. Vous dédiez toute une exposition permanente aux sapeurs. Comment ça va fonctionner et pourquoi essentiellement spécifier sa peur alors qu'il y en a plein qui aiment aussi s'habiller, des égéries, des mannequins, mais qui ne sont pas sapeurs forcément.
Sapeurs parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça fait partie de l'essence de notre patrimoine. Et c'est très étrange. Tu sais, les gens, quand ils viennent au Congo, ou quand tu leur parles du Congo, ils ont l'impression qu'ils vont trouver des sapeurs partout. Mmh. Et quand ils viennent, ils ont envie de les voir. Tu vois, ça éveille la curiosité. La culture d'un pays est extrêmement importante. Pour moi, la culture d'un pays est aussi importante que la politique. Il y a ce qu'on appelle le soft power qui, en tout cas, permet à un pays de pouvoir briller à l'international en utilisant la culture, de pouvoir diffuser des messages en utilisant la culture. Et la SAP, aujourd'hui, à l'international, il y a eu énormément d'expositions autour de la SAP, sauf au Congo. Et pourtant,
c'est d'ici
que ça vient. Mmh. Donc c'est quand même très étrange que d'être le pays de la SAP et ne pas avoir cet espace physique où justement on peut vraiment comprendre au sens propre du terme ce qu'est la SAP, comment c'est né, quels sont les différents courants. Parce que c'est vrai qu'au-delà du vêtement, la SAP en vérité c'est un vrai courant qui aborde des points autant social qu'économique. Mmh. Et il y a plein d'enjeux en fait derrière. Et l'idée c'est justement d'avoir cet espace dédié à ça et que les touristes ou les gens du monde entier puissent aussi avoir un point de référence sur la SAP qui soit basé dans le pays de la SAP.
Vous avez été bien inspiré de nous suivre ce soir sur UFM, avoir votre poste radio à côté, c'est UJob. Et ce soir, on s'est dirigé vers la mode. Qui n'aime pas s'habiller, qui n'aime pas s'habiller, mais il est très important de savoir tout ce qui est en train d'être fait pour bien aménager cette industrie la mode. Alors, il y a un autre pilier. C'est lui de mettre en place un observatoire dédié à la mode en Afrique. Comment ça va fonctionner avec cet observatoire? On sait déjà la dimension régionale du projet.
Alors l'observatoire, c'est plus l'aspect recherche. En Afrique centrale, on a énormément de textiles, mais ces textiles, ils ne sont pas forcément référencés et connus de tous. Et l'idée, en fait, c'est que on puisse également pouvoir donner à certaines personnes des aspects plus autour de la recherche, justement, des différents textiles qu'on peut trouver chez nous.
Alors, ça, c'est fort parce qu'on parle de quelque chose d'immense. C'est tout un espace entièrement équipé, comprenant des ateliers modernes, un centre de documentation et des zones collaboratives. Tout sera officiellement inauguré ce jeudi.
Oui, tout sera officiellement inauguré ce jeudi en présence de l'ambassadeur, son excellence Monsieur Rémy Maréchaux, l'ambassadeur de France ici en RDC, parce que c'est un partenaire clé qui nous accompagne depuis le début du projet. Et y a une vraie collaboration aujourd'hui entre l'ambassade de France et le Kobo Fashion.
On parle d'un partenariat que vous jugez très important, capital. C'est essentiellement dans quoi la France, c'est une grande destination de la mode. C'est, on va dire, l'Eldorado avec Paris.
Exactement.
Et toutes ces grandes marques et même les stars américaines, c'est là qu'ils rêvent de bien s'habiller. Pourquoi la France? Est-ce qu'il y a des connexions avec de grandes marques de l'Hexagone?
C'est un peu l'objectif aussi. Aujourd'hui, le partenariat que tu demandes, il est sur. Enfin, en tout cas, il y a un aspect financier dans lequel la France a financé, a financé ce projet. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que la France est quand même une icône, mais c'est clairement le pilier de la mode à l'échelle mondiale. Donc c'est vrai que l'objectif aussi, c'est justement d'avoir cet institut qui va éventuellement, et je l'espère, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là. C'est aussi un de mes objectifs, c'est justement de pouvoir créer ces ponts entre, pourquoi pas, des marques françaises et des créateurs ici, ou que ce soit sur de la formation, que ce soit sur des, pourquoi pas, des concours. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités entre la France, ses marques de mode, et le Congo et les autres pays de la région.
Alors, parlant déjà de la première cohorte qui commence après l'inauguration.
Ils ont déjà commencé.
Ils ont déjà commencé.
Ouais, ça fait 2 mois qu'ils ont commencé.
Tout est déjà en place.
Ouais, hein. Non, ça, eux, ils travaillent. Pendant qu'on est là, ils ont déjà accès au matériel, ils ont déjà commencé leur programme et ils sont très bien intégrés.
Alors, on parle de ce dont ils pourront bénéficier à la fin. Il y a tout cet encadrement. Mais après, il y a plusieurs formats de programmes d'incubation. Avec Kobo Fashion, ça se passe comment? À la fin, on accompagne la marque, oui. Et quelles sont les facilités qu'on met en place? Est-ce que l'objectif, c'est de créer un écosystème entre les différentes marques ici, faciliter, on va dire, le marché? Qu'est-ce qu'il y aura concrètement?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent tous avec des projets différents. Tu vois, y en a qui ont déjà des marques, y en a qui ont des ateliers. L'objectif, ça va être surtout pour nous de te donner les clés de booster ton business d'une certaine manière. Donc, tu vas voir qu'il y en a qui viennent et qui ont des attentes qui sont beaucoup plus techniques. Il y en a qui viennent et qui ont, ils sont très créatifs, mais ils n'ont jamais cousu de leur vie. Et c'est ce qu'ils veulent découvrir et vice versa. Donc, chacun vient un peu avec son objectif. Nous, pendant la formation, on est aussi à l'écoute de ce que chaque personne souhaite booster de son côté, de manière à ce qu'on puisse te former peut-être un peu plus dans ça. Mais après, comme tu dis, l'objectif global, c'est justement de créer cet écosystème. Tu vois, de pouvoir faire aussi le lien entre des designers et des couturiers et des modélistes, qu'on parvienne aussi aujourd'hui à dissocier tous ces différents métiers. C'est des métiers que aujourd'hui, pendant la formation, certains découvrent. Parce qu'ici, à chaque fois que tu dis, tu travailles dans la mode, on va te dire soit t'es styliste, soit t'es modéliste. Il y en a que deux. Alors qu'il y a des centaines de métiers dans la mode. Et en vérité, t'es pas forcément. Moi, je suis pas modéliste. Et je déteste ça. Tu vois. Je déteste ça, mais j'ai les connaissances techniques qu'il faut. Mais ce n'est pas ma spécificité. Pour certains, ça va être leur spécificité. Et l'idée, c'est aujourd'hui justement de prendre la chaîne de valeur de la mode de A à Z et de vous montrer exactement quels sont les différents métiers et quelles sont les étapes à suivre si tu veux exceller, en tout cas, dans ton domaine.
La première cohorte a combien de participants ?
Là, ils sont 9.
9, wow. Et pendant ces temps, est-ce que pour la première cohorte, est-ce que on parle aussi de la dimension régionale, est-ce qu'il y a eu aussi, on va dire, un regard vers d'autres pays pour un début?
Ah oui, ils sont 9 de différentes villes. T'as une centrafricaine, t'as une camerounaise, t'en as qui viennent de Bukavu, t'en as qui viennent de Brazzaville, t'en as de Kinshasa. Ils sont assez, ils viennent de la région.
Ça, c'est super bien et au vu du poids, là, il fallait vraiment comprendre la dimension du projet. Mais au vu du poids des responsabilités en tant que directrice exécutive de ces projets, quel est ton état d'esprit en ce moment? Comment tu acceptes de diriger ces projets?
C'est une grosse charge, je ne vais pas te dire. C'est une grosse charge, mais on va dire que ça arrive au bon moment de ma carrière.
Avec beaucoup de maturité.
Oui. Ça arrive avec beaucoup de maturité, ça arrive à un moment où, avant qu'on me propose ce poste, j'étais déjà sur une optique de transmission. J'ai sorti un livre il y a deux mois s'appelle La mode à 360, l'art diriger, innover. L'idée, c'est de c'était de mettre justement à l'écrit tout ce que moi j'avais pu apprendre jusque-là. Donc c'est vraiment un livre qui est en même temps axé sur ma carrière personnelle, mon parcours, mais il y a un aspect, voilà, comme tu dis, pédagogique sur l'industrie de la mode, afin de pouvoir comprendre vraiment pourquoi, comment est-ce que ça fonctionne. Tu as aussi un gros chapitre sur la mode et la musique, parce que ça, c'est partie prenante de ma carrière et je pense que la mode et la musique sont clairement indissociables aujourd'hui. Et enfin, tu as un gros chapitre sur la mode en Afrique. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre mon parcours jusqu'au bout. Et à la fin, la mode en Afrique est le dernier parce que je pense qu'il est important de d'abord comprendre l'industrie de la mode. Qu'est-ce que la mode et la musique, du moins comment les différents métiers, les différents steps que moi j'ai pu faire dans cette sphère-là, et justement que tu puisses comprendre enfin pourquoi il y a certaines lacunes en Afrique. Et c'est pourquoi il est fait dans cet ordre-là. Donc voilà, j'étais déjà dans cette optique de transmission avec des conférences, des masterclass, et aujourd'hui, avoir l'Institut, pour moi, c'est simplement avoir la grosse plateforme où je vais pouvoir réellement pousser la transmission à un niveau encore un peu plus haut.
Mais on parle d'une femme qui a réussi à recevoir une reconnaissance à l'international, en collaborant avec de grands noms du showbiz. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de plus t'orienter vers l'Afrique ces dernières années ?
Parce que déjà je suis d'origine congolaise et que à la fin de la journée on est mieux chez soi. Du moins c'est important je pense. Et puis après je suis quelqu'un de très curieuse de nature. Aujourd'hui il y a ce projet, mais c'est vrai qu'en vérité ça fait déjà une dizaine d'années. Enfin ça fait déjà 10 ans. Que 9-10 ans que j'opère en tout cas sur l'Afrique. Et je pense que ce soit d'un point de vue économique et culturel, les yeux du monde entier aujourd'hui sont tournés vers l'Afrique. Et quand on parle du bassin de l'Afrique centrale, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux culturels sur lesquels nous on va surfer, mais il y a énormément d'enjeux économiques, que ce soit pour les pays de la région, mais également pour le reste du monde.
Et en toutes ces années, tu as eu les temps d'observer, de voir comment les choses se passent ici, non seulement en RDC, mais en Afrique. Qu'est-ce que tu penses spécialement des créateurs congolais après ce que tu as déjà vécu, parce que tu as fait tes premiers pas dans un milieu, on va dire, déjà surévolué. Et qu'est-ce que tu penses des créateurs congolais ?
Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis mis... sur le créneau de la transmission, c'est parce que j'ai voulu évoluer ici et en voulant évoluer ici, j'ai aussi constaté les lacunes. Tu vois, tu constates des lacunes en matière de production, tu constates des lacunes en matière de formation. Et en fait, à un moment, je me suis dit, en vrai, tu peux vouloir faire ta marque et tu connais, comme je dis, je connais mon karaté, mais... il y a une grosse, d'un point de vue économique, il y a une grosse case qui nous manque, qui est la formation. Et en fait, je peux engager des gens, mais ces personnes n'auront jamais eu la formation dont moi j'ai besoin, qu'ils aient pour travailler correctement. Et c'est vraiment le moment où je me suis dit, en fait, il faut peut-être revenir un peu en arrière. C'est-à-dire qu'avant de tout se focaliser sur l'aspect « je veux lancer des business », etc., et ben, en fait, il faut être sûr que tu as une partie de la communauté qui soit réellement formée pour ça.
Et qu'est-ce que tu penses des consommateurs congolais ? Parce qu'on produit pour vendre.
Alors, le consommateur congolais est particulier. Le consommateur, après, c'est propre à l'Afrique en général. Hein. Mais tu vas voir qu'il va, il va plus vouloir consommer ce qui vient de l'extérieur que ce qui est produit sur place.
On a en face Uchawi ou une jeune marque française, puisqu'on entend que ça vient de France.
On va préférer la française et on va être beaucoup plus exigeant avec celle qui est produite ici. Moi, je sais que, toi, il y a plein de gens, quand on produit les vêtements et qu'on les remet à l'extérieur, ils sont 4 fois plus exigeants. Ils vont regarder dedans, ils cherchent vraiment le truc qui ne fonctionne. Même si tout fonctionne, ils vont chercher ce qui ne fonctionne pas.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'on était habitué à, on va dire, à une industrie qui n'existe presque pas ?
Oui, il y a aussi ça, c'est qu'il y a de la réticence, il y a du doute. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir des institutions comme en tout cas ce qu'on essaye de mettre en place, parce que ça apporte aussi de la crédibilité. Tu vois, l'objectif, c'est aussi que dans quelques années, les gens qu'on puisse en tout cas définir cet institut comme un point de référence. Tu vois, qu'on puisse aussi nous demander peut-être, qu'on sache que les meilleurs couturiers ou les meilleurs formés sortent peut-être de cet institut.
Et ça, c'est super, ces formations seront donc en dehors des cohortes qui sont, on va dire, sur 6 mois semestriels. Il y aura aussi des formations qui peuvent s'organiser chaque mois, chaque semaine, ça dépendra.
C'est ça. Et puis après, tu peux avoir aussi des intervenants, des ateliers, voilà.
Et donc, c'est donc un grand défi avec nos consommateurs qui ont encore assez d'hésitation. Et parmi les défis qu'il faut relever, et c'est donc parmi les défis que vous comptez relever à travers toutes ces formations. À côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Chose qu'il faudrait quand même inculquer. Est-ce que c'est un travail de vulgarisation également ou de conscientisation, je ne sais pas, à l'égard de ces consommateurs afin d'accorder aussi assez de crédit à ce que les créateurs congolais produisent?
Je pense que oui, ça va dans la création de cet écosystème. Tu vois, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir booster. Et comme on dit, les bénéficiaires de ces cohortes sont également nos ambassadeurs. Dans le sens où si nous, on parvient à leur donner les bonnes informations, eux, derrière, ils arrivent aussi à créer les bonnes marques. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de mode africaine sans avoir un lot de marques qui fonctionnent vraiment. Si tu as juste une marque qui fonctionne, ce n'est pas assez. Aujourd'hui, tu vois, on parle de Paris, un peu comme tu disais au début, parce que les marques, elles sont nombreuses. On parle de la mode italienne. S'il y avait eu que Versace, ça aurait pas fonctionné. C'est parce qu'il y a Versace, il y a Gucci, il y a Prada,
il
y a Miu Miu, Roberto Cavalli. Il y en a des masses et des masses. Et je pense que aujourd'hui, il faut parvenir justement à créer ce groupe de différents designers africains qui seront tous différents avec différents types de couleurs, d'esthétiques, mais qui arrivent à correspondre aux codes internationaux.
Et le problème n'est pas peut-être l'identité aussi. Lorsqu'on parle de la mode africaine, on a un regard vers les Ghana qui a vraiment une identité très visible de sa mode, ou les Nigeria, ils sont vraiment authentiques. Et au Congo, peut-être que moi je ne suis pas dans les secteurs, mais je pense qu'on n'a presque pas d'identité. Peut-être perdu.
Je pense qu'il y a un peu des deux aussi. Je pense que moi, je dis toujours que c'est vrai qu'on a perdu, beaucoup en matière d'identité culturelle. Mais c'est aussi justement l'objectif. Et je pense que tu auras l'occasion justement de venir à l'Institut. Tu verras que, j'ai pas envie de te dire qu'on est un espace de gestion du patrimoine africain, parce que c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans la réflexion, on essaye aussi de leur faire comprendre que la recherche textile, elle est aussi importante. Et à travers la recherche textile, automatiquement, tu retombes sur l'identité des différentes cultures du bassin. Voilà, les motifs, les imprimés, comment les réinventer.
Tendance à se diriger vers le wax quand même. C'est parce que c'est plus commercialisé, c'est moins cher ou
Je pense pas que c'est parce que c'est moins cher, mais c'est peut-être parce que ça a été en quelque sorte vulgarisé. Okay. Tu vois, et du coup, après, il y a quand même une belle histoire derrière le wax. Moi, j'en parle un peu dans mon livre où c'est une question que je me pose aussi. Est-ce qu'on peut parler du wax? Est-ce qu'on peut parler de la mode africaine sans parler de wax? Parce que voilà, il y a plein de personnes qui vont te dire que oui, c'est pas africain, c'est machin, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, non, on peut clairement pas parler de wax sans parler de mode. Enfin, on peut pas parler de mode africaine sans parler de wax, parce que c'est un tissu qui, à la fin de la journée, on l'a adopté. Et on en a fait une partie intégrante de notre culture. Et je pense que ce qui fait que ce soit africain ou pas, finalement, c'est pas tant l'origine, mais c'est comment est-ce que on l'a adopté et comment est-ce que
on crée avec,
tu vois. C'est comme aujourd'hui, si je te dis que les abacos de Mobutu, ils étaient pas faits au Congo, mais à la fin de la journée, c'est ce qu'on porte.
Ça fait partie de l'identité africaine,
congolaise. Ça fait pas partie de l'identité belge, et pourtant, il est visé en Belgique, tu vois.
Alors ça, c'est super bien. L'identité, c'est également savoir intégrer ce qui fait partie de la société. Ça, c'est crucial. Et quels seront quand même des objectifs pour chaque année pour Kobo Fashion? Comme ça, on sait que voilà, pour l'année 2026, parce que là, on est déjà au dernier, l'avant-dernier trimestre de l'année.
Oui, mais c'est vrai que là, ça va passer très vite, et que je pense que en tout cas, sur la première année, ou du moins ce qui nous reste de cette année, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître déjà l'espace, de faire connaître l'espace. Et maintenant, ça va être à nous de justement établir ce plan où, normalement, sur une année, l'objectif, c'est de pouvoir former au moins environ 300 personnes. Et maintenant, bah, il faudra voir sur les différentes formations qu'on va proposer.
Au moins 300 personnes, et ça, c'est... Ça fait partie hein, de l'objectif d'avoir assez des créateurs, parce qu'on parle de la France, on parle de l'Italie, on parle de grands pays, même les États-Unis, qui a plusieurs marques. C'est tout le jour qu'il y a de marques qui naissent. Et on a même de startups qui s'installent parmi les grandes marques. Ça va très vite. Mmh. On espère ça également pour le Congo, en tout cas. Et nous, nous allons toujours continuer à suivre de près les médias, seront là, bien sûr, pour relayer. On vous souhaite de faire très bien le travail.
Ben merci beaucoup. Et je t'attends du coup le 25 septembre au sein de l'Institut. Si tu viens pas...
c'est avec enthousiasme que je dis, j'essaierai là personnellement, je suis un amoureux de la mode, donc je viendrai voir et palper de mes yeux ce qui est déjà concocté. C'était dans le coulisses pendant un long moment et là c'est lancé. Et superbe, on arrive déjà à la fin de nos 40 minutes de ce soir. Un dernier mot à dire aux Congolais, aux auditeurs de UFM qui nous ont suivis et qui nous suivent encore en ce moment.
Bah, j'espère qu'ils vont tous venir nous visiter. L'Institut Régional de la Mode, il se trouve d'ailleurs à un endroit qui est complètement... enfin, en tout cas, sur lequel on n'aurait pas parié. Nous sommes dans le port. Donc, dans le port de l'Onatra, c'est un hangar qui a totalement été retapé. Et j'espère, en tout cas, que cet espace sera un peu plus qu'un simple institut, mais également un lieu de communion pour tout type d'artistes.
C'est parfois dans des endroits, on va dire, oubliés ou dont les gens n'ont pas un grand regard qu'on peut transformer. Et transformer les glauques au génial, je pense que c'est superbe. Merci de nous avoir suivis ce soir. On parle d'une industrie naissante des modes en République démocratique du Congo, mais ce n'est pas impossible que Kinshasa devienne la prochaine capitale de la mode africaine. Et ça, on en parlera dans les prochaines années, Laetitia.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Restez à l'écoute de la UFM et on se retrouve le mardi prochain avec une nouvelle invitée, une nouvelle thématique.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la UJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.